Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel Armand Cléry pour son livre « Le sang des carnutes », pour son tome 1 « L'or et le sacrifice ». Alors, Armand Cléry est agrégé de lettres classiques, ancien étudiant de l'École normale supérieure, docteur S lettres. Il est professeur en lycée et chargé de cours à l'université. Alors, avant qu'on entende Armand Cléry, je tiens d'abord à signaler que ces deux livres, car il y a deux livres, il y a deux tomes pour le sang des carnutes, le tome 1, l'or et le sacrifice, le tome 2, pour la liberté, ont constitué les coups de cœur de l'été 2019 pour moi. J'ai découvert donc l'écriture d'Armand Cléry, j'ai découvert un monde qu'il a actionné, qu'il a fait vivre et qui est vraiment enthousiasmant. Et c'est donc ce dont nous allons parler lors de cette émission et de la prochaine émission où nous évoquerons le tome 2. Bonjour Armand Cléry.
Bonjour.
Donc voilà, le sang des carnutes. Donc peut-être la première chose, qu'est-ce que c'est que ce livre pour nos auditeurs ?
Alors, c'est déjà la concrétisation de beaucoup de passions sur l'histoire de ma ville, donc Orléans, et puis ses alentours. Et c'était l'idée de retracer finalement un passé lointain et en même temps qui pouvait parler à beaucoup de monde, parce que les carnutes, finalement, ça fait partie de ces noms de l'histoire de France dont on a entendu parler, qu'on croit connaître, puis qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis, c'était un prolongement naturel à mes travaux universitaires, l'idée voilà, d'arriver dans une fiction à recréer un univers, à recréer un monde, un passé lointain, plus ou moins violent. Voilà. Et finalement, de prendre la suite, on va dire, de mes lectures d'élèves, de mes lectures d'étudiants, etc. Et de m'essayer, moi aussi, du coup, à recréer un univers. Voilà.
Alors, les Carnutes, c'est un peuple celtique. Mm-hmm. Qu'on peut dater ayant vécu sur la région de l'Orléanais, à quelle époque ?
Alors, en fait, la première mention des Carnutes est assez lointaine, puisque c'est l'historien Tite-Live qui en parle, et qui les mentionne, parmi beaucoup d'autres peuples, comme faisant partie des tribus gauloises qui ont déferlé sur l'Italie. Donc au début, on n'est pas du tout sur Orléans, ou la région centre. En revanche, l'auteur qui en parle le plus, évidemment, est César, dans son livre 7 de la guerre des Gaules. Et c'est lui qui nous donne finalement les principales mentions littéraires qu'on a des Carnutes. Donc c'est un peuple effectivement plutôt prospère, qui n'est plus belliqueux à l'époque de la guerre des Gaules, comme d'ailleurs beaucoup de tribus gauloises, et qui vit donc entre Chartres et Orléans, donc un territoire qui correspond au Loiret, l'Eure-et-Loir actuel, un petit morceau des Yvelines, voilà, ce territoire-là, le Loir-et-Cher également. C'est un peuple très prospère qui bénéficie de deux, on va dire, richesses naturelles. La première, c'est la Beauce, qui voilà, a été défrichée depuis le néolithique, hein, pratiquement, et donc qui est vitale pour César, puisque César est, comme tout conquérant, il a besoin de blé pour nourrir ses troupes. Donc les Carnutes, voilà, ce sont un peuple clé. Et l'autre richesse, évidemment, c'est la Loire, qui traverse comme ça le territoire Carnute et qui permet de faire la jonction avec l'ouest de la Gaule. Donc on importe par exemple du sel via la Loire depuis la région de Nantes, qui permet de faire le lien avec la vallée du Rhône. Donc on fait venir beaucoup de vins méditerranéens, etc. On est déjà en contact. Et puis qui permet de faire aussi le lien avec la Seine, le fleuve, hein, voilà, qui permet de faire venir des marchandises du Nord. Donc finalement, les Carnutes tirent leur richesse de leur position centrale dans la Gaule, voilà, qui font qu'ils sont un peuple clé pour César et une plateforme commerciale pour la Gaule.
Alors là, donc on est dans le 1er siècle avant Jésus-Christ.
Tout à fait.
Mais les Carnutes, vous faites remonter à peu près les Carnutes à quelle époque on peut identifier?
Ça se perd évidemment. On sait que dans les années 300, on a déjà des traces, voilà, donc bien avant, voilà, bien avant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Après, fixer une datation exacte n'est pas possible évidemment, mais ils font partie des peuples ancestraux de la Gaule. Là-dessus, on est clair. Et les principales recherches archéologiques, voilà, les découvertes qu'on fait au jour le jour, même encore aujourd'hui, nous prouvent que la région centre est densément peuplée depuis la plus haute antiquité. Il n'y a, pas de souci là-dessus. En revanche, les Carnutes se romanisent très vite, donc ils disparaissent sous leur forme gauloise assez rapidement dès la conquête de César. Ils ne font pas partie des peuples qui vont conserver une fibre celte, on va dire, par rapport à d'autres peuples.
Vous en connaissez des peuples qui ont gardé une fibre celte ?
Eh bien, en fait, c'est assez simple, finalement. Ce sont les peuples les plus lointains par rapport au centre de la Gaule, donc la Belgique, la Bretagne, etc., des peuples les plus éloignés, qui correspondent aussi à des invasions pour la Belgique ultérieure, et puis des peuples, finalement, moins commerçants. Les Carnutes étant très commerçants, au final, ont vite compris l'intérêt à se romaniser. D'ailleurs, les Gaulois se romanisent très vite. La Gaule devient une terre césarienne très très rapidement parce que on n'a pas, comme aujourd'hui, ce culte de l'identité nationale qui nous ferait dire ne touche pas à ma culture. Au final, dans l'Antiquité, on adopte volontiers également les traits culturels des autres. Il n'y a pas trop de soucis de ce point de vue-là.
Bien, alors. Tout à l'heure, je le disais, moi, j'ai été enthousiasmé par la lecture de ce livre qui nous fait entrer dans un univers de proximité, en fait, avec les Celtes. Vous avez trouvé, en fait, le moyen de créer un pont entre le 21e siècle et donc le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, comment parvient-on à faire vivre comme ça les choses plus de 2000 ans en arrière ?
Eh bien, pour être tout à fait honnête, j'en suis moi-même le premier surpris. Finalement, le point de départ était un petit paragraphe de César, avec cette idée que c'était la mention la plus éloignée qu'on avait de la ville d'Orléans, dont je suis originaire, et donc je voulais retracer le passé. César mentionne donc la cité de Guénaboum, donc l'ancienne Orléans, au moment d'un épisode assez connu qu'on appelle le massacre d'Orléans, où les Gaulois voilà, se révoltent contre les commerçants, et au moment du retour de César. Mais il ne dit rien d'autre. Et donc tout le défi était quelque part de combler l'immense vide à côté. Et donc au final, le challenge, le défi était de faire revivre comme ça ce peuple, à la fois dans sa spécificité, les Carnutes ne sont pas un autre peuple, Orléans n'est pas une autre ville, bon, et en même temps de les replacer dans le contexte gaulois. Ils appartiennent aussi à ce passé celte, à ce passé gaulois. Et donc, du coup, l'idée, c'était de recréer un monde en un livre et d'essayer de faire figurer le plus de choses possibles, d'être exhaustif au maximum, en parlant eh bien, de la manière dont vivaient les Carnutes, de leur religion, de leur système politique, de leur nourriture, de leur manière de penser, des événements historiques qui ont eu lieu chez eux, de la rencontre aussi avec le monde méditerranéen, avec Rome, avec la Grèce, avec tous les autres peuples de l'Antiquité. L'idée, c'était justement de faire entrer tout ça dans un livre pour donner au lecteur, finalement, une impression d'ensemble. Qu'à la fin de sa lecture, il ait une idée de ce que pouvait être Orléans il y a 2000 ans. C'était ça l'idée. Voilà. Et là où je suis surpris, c'est qu'effectivement, plus on creuse et plus on apprend des choses, et plus évidemment le résultat devient enthousiasmant. Et donc, au final, d'un petit paragraphe, on arrive à recréer un univers avec ses passions, avec ses déchirements, avec ses violences, avec voilà, sa sensualité aussi. Et tout ça a fait finalement le sang des Carnutes.
Voilà. Alors, c'est assez incroyable parce que, bon, maintenant, cette lecture remonte à plusieurs mois, évidemment, mais je me rappelle donc de ce héros-là qui vient de Malte et donc qui est porteur d'une culture différente.
C'est ça.
Et vous l'associez avec d'autres personnages, hein, ce géant qui vient de...
D'où de, voilà, de, du pays des Scythes, du voilà. coup. Voilà, voilà effectivement, mon point de vue était... Enfin, mon but était de montrer justement le point de vue d'un lecteur d'aujourd'hui qui découvrirait le monde Carnute. Donc, finalement, autant prendre des étrangers, des personnages étrangers qui découvriraient à leur tour la cité Carnute. Et le roman, effectivement, s'ouvre ainsi par l'arrivée de trois voyageurs qui viennent voilà, d'autres univers. Donc, ces voyageurs, évidemment, sont représentatifs. Nous avons un commerçant italien, Asinus, dont le nom lui-même évoque le côté animal, le côté... Voilà. Et puis, un commerçant légèrement roublard sur les bords qui ne recule pas devant tous les moyens pour s'enrichir. Il est accompagné d'un esclave, donc Scythès, qui vient donc du pays des Scythes, puisqu'à l'époque, on donnait souvent aux esclaves le nom de leur région d'origine. Et puis enfin, effectivement, un Maltais qui me permettait d'avoir un autre point de vue sur l'Antiquité, sur des cultures, sur des peuples un petit peu oubliés aujourd'hui, à moins de s'y intéresser vraiment. Et donc, c'était le point de vue punique, donc les Carthaginois, les Maltais, les Phéniciens, etc., qui étaient évidemment voilà, très... très voilà, qui avait une science très importante, qu'on a un petit peu perdu aujourd'hui, mais ça me permettait du coup d'avoir ce sentiment de découverte face à la tribu Carnute, avec justement deux préoccupations différentes. Mon commerçant est évidemment intéressé par le côté économique d'Orléans, le côté économique de la puissance Carnute, bien sûr, comment s'enrichir chez ce peuple très prospère. Et le Maltais s'inscrit dans la lignée des encyclopédistes, il veut découvrir par amour du savoir, voilà, pour savoir, un petit peu comme nous, pour savoir comment est-ce qu'on vit à l'autre bout de la planète, comment, voilà, est-ce qu'on meurt, etc., etc. Voilà.
Alors, c'est en même temps très intéressant, parce que dans une époque où on parle beaucoup de migration, vous faites vivre aussi le fait que 21 siècles en arrière, il y a déjà en fait des mouvements de population, qu'il y a des guerres qui modifient un peu les cartes et qui troublent les territoires et qui provoquent aussi des mouvements de population. Et voilà, vous nous donnez à lire ces choses-là et du coup, en miroir, vous nous faites réfléchir aussi sur les questions d'identité, les questions d'altérité, d'accueil, d'hospitalité, etc.
Bien
donc,
sûr.
C'est très présent dans votre livre, ça.
Tout à fait. Alors, pour être honnête, ce n'est pas l'objectif premier, mais c'est vrai qu'il peut se lire de ce point de vue-là. L'émigration, la France étant une terre de carrefour, par définition, sont évidemment ancestrales. La guerre des Gaules commence par des problèmes de migration, des peuples qui en chassent d'autres parce qu'ils sont eux-mêmes poussés par d'autres peuples. Et puis, il y a aussi l'image des Gaulois dont il faudrait se défaire, de Gaulois, déjà qui seraient nos ancêtres. Ce n'est pas vrai.
Pourquoi c'est pas vrai ?
Alors, pas plus que d'autres, parce que bon, il y a tellement de strates de population qui se sont succédées. Ce qu'on appelle les Gaulois eux-mêmes, résultant sans doute de vagues de migrations différentes. Tout à l'heure, je citais les Belges. Ce sont sans doute des migrations ultérieures par rapport aux autres tribus gauloises. Et du coup, finalement, cette idée du Gaulois qui serait notre ancêtre est faux. On descend si ce mot a un sens, évidemment, autant des Romains que des Francs, que d'autres peuples, évidemment, qui se sont succédés au cours des siècles. Et l'image du Gaulois moustachu, à casque ailé, etc., bref, l'image d'Épinal, est entièrement fausse. Quand César arrive en Gaule, la Gaule ne ressemble déjà plus à ce qu'elle était des siècles avant. Les Gaulois, pardon, sont déjà très romanisés dans leur culture, dans leur apparence. Donc eux-mêmes sont en pleine mutation et surtout, il n'y a pas ce rejet des migrations. Au contraire, l'Antiquité est assez tolérante de ce point de vue-là, du point de vue religieux, mais même du point de vue culturel. Tout ce qui est bon à prendre chez l'autre, on le prend volontiers. Si tant est que ça nous sert, que ça nous est utile, que ça puisse nous protéger, etc. Et donc les Gaulois, comme tous les autres peuples, réfléchissent de la même manière. Quand quelque chose est bon à prendre chez les autres, ils le prennent volontiers, et de la même manière les Romains. On oublie la dette des Romains par rapport aux Gaulois. Ils ont beaucoup appris des Gaulois également. Donc il y a vraiment un échange réciproque de la part de ces peuples, qui d'ailleurs, pendant longtemps, peuvent combattre ensemble, etc., etc. Donc c'était intéressant, effectivement. Et au final, je me suis aperçu que c'était la question sous-jacente de mon livre, la rencontre avec l'autre. Finalement, est-ce qu'elle conduit forcément à un antagonisme, à un rejet ? Au final, est-ce qu'il n'y a pas le plus souvent une tolérance, un accueil, une hospitalité, etc. L'histoire nous masque un petit peu la réalité, parce que dans l'histoire, on retient souvent évidemment les événements sanglants. Donc, de l'épisode de Guénaboum, César lui-même ne retient que le massacre. Le moment où les Gaulois tuent le plus de Romains possible pour lancer la grande révolte de 52. Mais au final, du coup, il y avait beaucoup d'hospitalité, beaucoup de tolérance.
Ouais. Alors dans votre livre,
oui.
Mais c'est dans le tome 2, je crois.
Oui, c'est dans le tome 2.
Où vous parlez donc de ce massacre, en fait.
Voilà.
Donc à Guénaboum.
Voilà.
Donc vous parlez de ce massacre, en fait, des carnutes à l'encontre des Romains. Des Romains et puis de ceux qui les représentent aussi.
Tout à fait. Alors, effectivement, donc, c'est l'événement qui fait rentrer Orléans dans l'histoire, on va dire. En fait, l'intrigue politique, historique, remonte un petit peu plus loin. Les carnutes, César leur a imposé un roi quelques années avant, qui s'appelait Tasgetios, dont on ne sait pas grand-chose. Et ces carnutes s'en sont débarrassés. Ils l'ont fait assassiner. César a cherché en vain les coupables, il n'a pas réussi. Quelques années plus tard, les carnutes refont parler d'eux avec d'autres tribus, et on sent quand même une tendance à la rébellion de la part des carnutes, même si ce n'est pas un peuple belliqueux, c'est un peuple qui manifestement a les moyens de ses ambitions. Cette rébellion, César la tue dans l'œuf, on est donc un an ou deux avant la révolte de Vercingétorix.
Donc on est en
moins 54, moins 53, voilà. Mmh. Et César donc il profite d'une assemblée des chefs gaulois pour faire exécuter un chef qui n'est pas carnute, qui est Sénon, qui s'appelle Acco, Accon en français peut-être. Ce crime ne passe pas chez la plupart des tribus gauloises, puisqu'il est exécuté, donc il est battu à mort, fouetté à l'aide de petites badines. Et il est décapité, et ce crime paraît absolument atroce. Et l'année d'après, ce sont les carnutes qui obtiennent le droit, en quelque sorte, de lancer la grande révolte de Vercingétorix. Alors, est-ce qu'il faut y voir un sentiment de rancune de la part des carnutes face à leur révolte que César a tuée dans l'œuf ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'on ignore ? C'est peut-être le cas. Toujours est-il que ce sont eux qui lancent la fameuse révolte de Vercingétorix. Donc, cette révolte, que évidemment tout le monde connaît, ne serait-ce que pour la figure du chef Arverne, elle prend naissance chez nous pour plusieurs raisons. Donc peut-être pour le rôle qu'ont joué les carnutes les années précédentes, et puis aussi parce que elle débute à l'hiver 52. César n'est pas en Gaule, il est en Italie, et les légions hivernent. Elles sont dans leur campement. Or, Guénaboum étant la place centrale pour l'approvisionnement du blé, il paraît logique de frapper au portefeuille, on dirait aujourd'hui, même si c'est un portefeuille plutôt commerçant, et donc de priver les légions de César de leur approvisionnement. Voilà. Donc c'est pour ça que ça commence ici. Les carnutes, après, passent au second plan, mais la grande révolte commence chez eux. Alors, c'est quoi, quelle est cette histoire de massacre ?
On va peut-être laisser en appétit les auditeurs, on va faire une pause musicale et on revient après sur cette histoire de massacre.
Ça marche.
Avec Armand Cléry pour son livre « Le sang des carnutes ». Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Armand Cléry pour son livre Le sang des carnutes, le tome 1, L'or et le sacrifice, publié aux éditions L'Armaton dans la collection Romans historiques, série Antiquité. Alors Armand Cléry nous évoquait avant la pause musicale donc ce massacre qui a eu lieu donc à Orléans il y a plus de 2000 ans. On y revient avec vous, Armand.
Donc, je disais que cette histoire de massacre, c'est en fait que César avait confié l'approvisionnement en blé à un chevalier qui s'appelle Quita, Fufus Quita.
On en est sûr.
On en est sûr, c'est César lui-même qui le dit, et on a des traces de la famille, de sa famille dans d'autres œuvres, d'autres auteurs romains. Le massacre consiste à, du jour au lendemain, à massacrer tous les commerçants romains qui se trouvaient à Orléans. Alors, cette histoire de massacre, on en a d'autres exemples dans l'Antiquité. Jugurtha, par exemple, en Algérie actuelle, procède au massacre de Kirta. Donc, il y a d'autres exemples comme celui-ci. Et il faut bien imaginer Orléans, et donc la région en règle générale, comme arpentée par des commerçants romains, des commerçants grecs et autres. On a trouvé beaucoup de restes archéologiques, notamment des amphores de vin, qui montrent que la présence méditerranéenne, la présence de commerçants, était importante à cette époque-là. Et donc, finalement, le massacre avait aussi une question de... un objectif de frapper les esprits, voilà, de montrer aux commerçants romains qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans cette terre qui leur était justement hospitalière depuis bien longtemps.
Et on sait combien il y avait de commerçants, on connaît le nombre de gens qui ont été massacrés.
Alors, on ne connaît pas le nombre, on sait juste que Quita fait partie des victimes. César nous est très laconique, hein, puisque c'est sa manière d'écrire.
Je crois que c'est pas lui qui a écrit, en fait, non ? Il n'était pas accompagné d'un historien qui écrivait ?
Alors,
qui
César, alors déjà, le dernier livre n'est pas de lui. Premièrement. Et deuxièmement, on sait que César a beaucoup pillé aussi d'autres écrivains. Mais c'était une manière d'écrire dans l'Antiquité. Il n'y avait pas de question de plagiat ou autre comme aujourd'hui. Donc on se servait allègrement de ce que nos prédécesseurs avaient pu écrire. Et finalement, sur la Gaule, César puise énormément dans ce que d'autres ont dit avant lui. Si bien que finalement, il n'est l'auteur que des événements purement historiques de la guerre des Gaules. Toutes les digressions ethnographiques, souvent, ne sont pas de lui. Elles font partie de la manière d'écrire l'histoire à Rome, mais souvent, voilà, ce n'est pas lui, effectivement, qui en est l'auteur. Voilà.
D'accord. Alors, donc, vous, vous avez fait l'école normale supérieure.
Oui.
Donc, je présume que vous avez une excellente connaissance donc, des textes,
oui.
Romains.
Oui.
Vous les avez lus en latin, vous les avez eus en version française, comment vous avez travaillé ?
Pour mon livre, les textes, je les ai consultés comme tout un chacun en français, bien sûr.
Ouais.
Maintenant, il va sans dire que parfois le latin ou même le grec sont plus intéressants que la traduction, puisque une traduction est toujours une petite trahison face au génie de la langue originelle. Pour ce qui est de mon livre, la version française suffisait. En revanche, ce qui est intéressant, c'est toutes les petites mentions faites par-ci, par-là, c'est-à-dire dans des ouvrages qui ne sont pas spécialement consacrés sur les Gaulois. On trouve dans énormément de textes latins ou grecs des mentions anecdotiques, mais qui font tout le sel, on va dire, de notre découverte de la Gaule. On trouve des petites mentions anecdotiques sur ce que mangeaient les Gaulois, sur la manière dont ils dormaient, sur ce qu'ils pensaient, etc., à quoi ils ressemblaient.
Vous avez deux, trois éléments à nous donner comme ça ?
Par exemple, on trouve des petites choses chez Pline, on trouve des petites choses chez Strabon, chez Athénée, chez des auteurs chrétiens, même parfois chez des copistes du Moyen-Âge. Le thème des sacrifices humains, qui est un thème qu'on rencontre souvent quand on parle de la Gaule. Au final, les auteurs romains n'en parlent pratiquement pas. César n'en parle pas. On trouve ça chez un auteur comme Lucain. Et puis après, on trouve ça dans des mentions faites par des copistes au Moyen-Âge. Alors, à quel endroit se situe la vérité dans tout ce qu'ils disent ? Eux-mêmes, finalement, ont pu exagérer des hypothèses. Mais c'était intéressant de prendre ces petites mentions pour les travailler, pour en faire une matière romanesque. Parce que, justement... Le fait est que dans un roman historique, il me semble qu'un lecteur attend aussi du sensationnel. Ça fait partie des attendus et César ne le fournissait pas pour les Carnutes. Et donc, du coup, il fallait aller puiser la matière ailleurs, quelque part. Quitte à parfois aller voir chez des auteurs qui ont pu inventer des passages et les rendre, nous, plausibles, montrer qu'ils ont pu peut-être se dérouler ainsi. Voilà.
Alors, moi, quand j'ai lu ce livre, les deux, tome 1, tome 2, ce qui m'a à la fois enthousiasmé et stupéfié, c'est le fait que on suive pas à pas donc un déroulé historique comme ça avec un questionnement. Comment se fait-il que cet auteur ait eu accès à des documents pour avancer tel qu'il le fait dans son écriture? Et même quand vous parlez de César, on sent bien que la guerre des Gaules est un tremplin pour lui pour aller conquérir le pouvoir à Rome. Vous ne le dites pas de manière évidente, enfin il ne me semble pas, mais en filigrane, on sent l'histoire en train de se faire. Et on sent que dans votre préoccupation d'écriture, on sent que il y a l'idée qui consiste aussi à mettre en perspective l'histoire qui va résulter. Hein. Donc quand vous évoquez César, on voit tout le génie du stratège militaire et on sent que qu'en fait il met en évidence une stratégie pour devenir en fait le prochain leader de Rome. C'est exact ou pas?
Bien sûr, bien sûr. La Gaule est pour lui un tremplin. Il la conçoit comme ça.
D'ailleurs, mais c'est ça, c'est il l'écrit. On le sait. Non, ou alors, bien c'est vous qui le construisez.
Alors, le personnage de César n'est pas très compliqué, ou plutôt sa complexité tient à autre chose, parce que dès l'Antiquité, il a fait figure de personnage principal qui a alimenté tous les récits, etc., etc. Donc le nombre d'auteurs qui parlent de César est astronomique depuis évidemment sa mort. Déjà à Rome, beaucoup en parlent. En Grèce, pareil. Donc César, on est plutôt bien détaillé. La complexité tient justement au fait de ne pas répéter ce que d'autres ont dit. Pour le portrait de César, par exemple, si on regarde le portrait qui est fait, c'est Suétone, un auteur latin qui nous fait son portrait, et force est de constater que, comme c'est le seul portrait qu'on ait, eh bien, des fois, on a l'impression de répéter un petit peu ce que les anciens ont dit ou d'autres auteurs. Bon. Il est vrai que pour César, la Gaule, c'est un instrument. Il a besoin d'une conquête pour asseoir son pouvoir, pour renforcer sa puissance face à son ennemi Pompée, etc. Bon, on connaît bien l'histoire. Et d'ailleurs, il s'est pas trompé, puisque je disais tout à l'heure, après sa mort, la Gaule devient un soutien césarien sans faille pour ses successeurs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais là où il y avait des problèmes, c'était pour les personnages, notamment les personnages celtes, et même certains personnages romains. Je parlais tout à l'heure du chevalier Fufus Cita. On ne sait rien de lui. Donc tout était inventé. À quel moment est-ce qu'on est dans le vrai? À quel moment est-ce qu'on dépasse ce qu'on peut dire de lui? Bon, tout est une question de dosage. Et pire encore pour un personnage attendu comme Vercingétorix. Voilà. Alors, ma chance, quelque part, c'était que Vercingétorix ne met pas les pieds à Orléans. Donc il n'y avait pas besoin tant de le représenter. Mais voilà. Et les instigateurs de la révolte, c'est pareil. On n'est même pas sûr de leur nom. Vercingétorix d'ailleurs non plus. Est-ce que c'est un titre, comme ça se fait beaucoup dans l'Antiquité? Est-ce que c'est un nom propre? On ne sait pas bien. Donc, tout est à inventer, ou tout du moins à légitimer, à justifier par le récit. Et c'est là l'intérêt de la fiction. C'est montrer que tout est crédible, que tout est plausible, et que peut-être que l'on se trompe, peut-être que ce ne sont que des hypothèses, mais en tout cas, montrer au lecteur qu'on y a réfléchi, et que ça se tient. Et là, la fiction étaye quelque part la réalité, qu'on n'a pas, qui nous échappe, bien sûr. C'est ça. Mais le personnage de César, pour le coup, lui, finalement, est assez sûr. Voilà, quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a, comme vous disiez, il y a une mise en perspective de ce personnage-là. C'est un personnage dont on est capable de montrer voilà, à quoi il pense déjà, comment il se projette, et les raisons aussi de sa venue en Gaule. Voilà.
Très bien, nous faisons une courte pause musicale et nous retrouvons Armand Cléry pour cette discussion tout à fait passionnante sur son ouvrage « Le sang des Carnutes ». Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Armand Cléry. Et donc, son livre Le sang des Carnutes nous plonge dans cette terre, eurélienne aussi. Et tout à l'heure, Armand nous disait qu'il a la passion de sa ville, Orléans, qu'il fait revivre dans son ouvrage. Mais il fait revivre aussi le sud de l'Eure-et-Loire, la Beauce. Il évoque d'ailleurs donc Chartres, et pour tous les auditeurs qui sont du département, bien sûr, c'est un ouvrage essentiel parce qu'on a des clés de compréhension sur l'histoire de ce territoire. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui vous importait de traduire et de dire sur ce territoire?
Alors, comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de montrer de manière exhaustive le monde carnute. Il y avait la Loire, bien sûr, et puis le sud de la Loire, la Sologne actuelle, etc. Et puis il y avait toute cette immensité, la Beauce, qui est constitutive de l'identité carnute. Les carnutes, voilà, c'est le peuple de la Beauce. Et donc, du coup, il y avait cet espace entre Chartres et Orléans qu'il fallait absolument occuper, présenter. Le roman aurait été parfaitement incomplet sans cette présentation-là. Alors, Chartres, Autricum, Autricon en grec ou vraisemblablement en gauloise, j'avais peu de renseignements dessus parce que, évidemment, les sources, il y en avait moins. Et puis surtout, je ne voulais pas faire concurrence avec Orléans qui restait le sujet premier du livre. Donc Chartres apparaît comme la capitale politique des Carnutes, Orléans est plutôt la capitale économique, même si les rapports peuvent être plus complexes que cela. Elle apparaît en arrière-plan. On la mentionne beaucoup, on n'y va pas. En revanche, la Beauce, elle, figure amplement dans le livre parce que ce qui m'intéressait, c'était à la fois écrire des pages difficiles à écrire sur cette campagne, cette évocation des champs, des travaux agricoles, etc., etc. C'était représentatif de la manière dont vivaient mes Gaulois, parce que les plus belles trouvailles qu'on a faites sur les Carnutes, au final, c'est en Beauce qu'on les a faites. Voilà. Et puis, je trouvais qu'on avait finalement des choses atemporelles. Je m'explique. Dans mon livre, il y a une attaque de ferme. Ouais. Eh bien, pour en avoir discuté avec des personnes de Beauce, elle me faisait remarquer à très juste titre que ces attaques, ce sont les mêmes qu'on retrouve avec la bande d'Orgères, qu'on retrouve au XVIIIe, au XIXe siècle, etc., qui sont récurrentes, qu'on retrouve d'ailleurs même parfois encore aujourd'hui, malheureusement, des attaques de fermes un petit peu isolées, des cambriolages, etc. Donc au final, il y avait par exemple...
Vous pouvez vous expliquer là-dessus, c'est tout à fait passionnant.
C'est-à-dire que l'idée que... finalement, les Carnutes avaient leur prospérité, tenaient leur prospérité de leurs fermes, de leurs exploitations agricoles, mais en même temps, c'était leur faiblesse, puisque les fermes sont isolées, et donc il fallait apprendre aussi à vivre avec les risques, avec les attaques, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve tout au long, finalement, du XVIIIe, du XIXe. Si on l'isola dans la terre, Zola ne dit pas autre chose. Ces paysans sont omnubilés par la hantise des attaques telles qu'on les trouvait au début du XIXe siècle. Et aujourd'hui, avec les différentes crises économiques, on retrouve finalement les mêmes choses où on a des fermes comme ça, isolées, qui subissent des cambriolages plus ou moins violents, où on a des cas de séquestration absolument inimaginables, enfin, on ne croirait pas. Et finalement, on se dit que quelque part, il y a une histoire là, en filigrane qui se dessine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc il y avait ce côté représentatif qui faisait le lien entre moins 52 et 2018, 2019.
Enfin. Avec peut-être une nuance, c'est que l'attaque que vous écrivez, elle est incroyable, avec des séquences de combat, oui. Digne du cinéma.
Oui, c'est ça.
C'est rocambolesque, totalement incroyable, et puis vous dessinez des personnages fabuleux, et notamment une jeune femme qui est l'héroïne de votre livre.
Oui, oui. Hein,
vous pouvez en dire deux mots ?
Alors, il y a plusieurs femmes dans mon livre. Il y a effectivement, une jeune femme donc qui vient donc d'une ferme, qui est la fille d'un maître de ferme, donc qui s'appelle Aldea et qui représente à la fois la femme chaste évidemment, mais aussi la femme courageuse, qui n'a pas peur de se retrousser les manches pour faire vivre son domaine, se relève après chaque échec et qui va de l'avant. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres personnages féminins, dont deux qui me tiennent beaucoup à cœur. Une prostituée, qui représente aussi ce côté populaire qu'on pouvait trouver dans n'importe quelle tribu gauloise, qui est un personnage un petit peu énigmatique aussi, on ne sait pas très bien ce qu'elle pense, qui est un personnage imprévisible, violent aussi, et qui a porté cette touche évidemment d'érotisme dont le roman historique peut se nourrir. Et puis, il y avait un personnage qui me plaît beaucoup, le personnage d'une divinité, inconnue, puisqu'on découvre de temps en temps des divinités locales dans le monde gaulois, et j'avais envie comme ça de créer une divinité qui aurait été typiquement carnute, quelque part, et qui me permettait de parler de l'autre point des carnutes, à côté de la Beauce, la fameuse forêt des carnutes.
C'est ça.
L'ombilique, l'homme phallos de la Gaule,
ouais.
Le centre de la Gaule, dont la localisation a fait débat pendant longtemps, et cette divinité me permettait d'y entrer. Voilà.
Alors, a fait débat pendant longtemps, et vous en retirez quoi aujourd'hui ?
Alors,
des débats ?
Alors, les débats font toujours rage, évidemment, pour tout ce qui est gaulois. Hein. Ne serait-ce que, par exemple, pour Guénaboum. Pendant longtemps, certains se sont dit, Guénaboum, ce n'est pas Orléans, c'est Gien. Gien, Guénaboum, bon, on voit bien. Maintenant, il est établi, grâce aux découvertes archéologiques, que c'est Orléans. Pour la forêt des Carnutes, la localisation la plus probable serait l'ancienne forêt d'Orléans, qui était plus large à l'époque, plus étendue, bien sûr. C'était un territoire donc entre les Carnutes, les Bituriges et les Sénons, donc un territoire qui n'appartenait à aucun de ces peuples, mais quand même il y a une prédominance Carnute puisque les Carnutes leur ont donné son nom. Voilà. Donc on est plutôt du côté de Châteauneuf-sur-Loire, de ces environs-là. Voilà.
Parce que en fait, les historiens de Chartres,
oui.
Comme Ernest de Lipinois,
oui, je sais bien, oui.
Ou bien les traditions plus anciennes, comme oui. Sébastien Rouillard, situent plutôt la forêt des Carnutes aux alentours de Chartres.
Et j'entends bien. Le problème, c'est que ce sont les données de la préhistoire qui posent problème, puisque la Beauce ayant été défrichée avant les Gaulois, à la fin de la préhistoire, ça pose un problème de datation qui est vraiment problématique. S'il y avait une forêt aussi importante, où se serait-elle située dans un territoire qui est déjà qui a déjà perdu ses massifs forestiers depuis longtemps. Voilà. Après, soyons clairs aussi, on fait des découvertes régulières. L'archéologie est une science qui est bouleversée régulièrement. Et donc, au final, il n'est pas improbable que ce qui apparaît comme des certitudes aujourd'hui soit complètement chamboulé demain, ne serait-ce que demain.
Non, mais c'était juste histoire de
mais tout à fait.
De mettre un peu de controverse, sachant qu'en plus, Carnute, le mot Carnute, le peuple gaulois que vous évoquez, Carnut a donné le nom, en fait, à la ville de Chartres.
Tout à fait.
La ville de Chartres découle de ce terme Carnut. Donc, voilà, c'était juste pour dire que nous avons des débats qui...
Mais bien sûr.
qui sont encore à venir sur ces questions de terminologie. J'ai été, moi, en tout cas, vraiment séduit par ces personnages féminins que vous venez d'évoquer. Vous tracez, en fait, aussi les destins de ces trois femmes-là. D'autres, il y a d'autres femmes, ces trois principaux personnages féminins. Et c'est des destins qui sont véritablement incroyables, quoi. C'est fabuleux et en même temps, on se pose des questions. Pour avoir tracé celui de cette divinité, on a envie de vous demander, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça, quoi ?
Alors, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas si je dois la faire, mais je la fais quand même.
Faites-la, vous êtes sur Radio Grand Ciel.
Cette divinité, en fait, est l'anagramme du nom de mon épouse. Voilà, donc la principale inspiration de cette divinité, c'est mon épouse elle-même, qui serait sûrement très surprise de savoir ce qu'elle est devenue dans un livre. Mais j'avais envie de créer le modèle d'une femme sublimée quelque part, et le modèle de mon épouse, tant mieux, finalement, c'est imposé de lui-même. Donc c'est un des personnages. Très personnel, au final. Mmh. Et ce qui s'explique, puisque c'est un des personnages qui sort de la dimension historique. C'est une divinité, elle évolue dans un monde Carnut, enfin dans un monde, pardon, dans la forêt des Carnutes, qui elle-même semble hors du temps. Elle n'a pas le trait réaliste qu'a le personnage de prostituée ou qu'a le personnage de maîtresse de maison. Voilà. Cette idée aussi, c'était de représenter ce qu'on ne saura jamais, sans doute, sur les Gaulois, sur tous ces peuples ancestraux, que l'archéologie, même elle, avec tous les progrès qu'elle fait, ne pourra jamais nous livrer.
Mais en même temps, vous avez fait le choix de dessiner une divinité. Elle est féminine, ce n'est pas un homme.
Non.
Et on est totalement en phase avec le peu que l'on sache des peuples celtiques. Où l'aspect féminin est vraiment important et s'impose. Et d'ailleurs, il s'imposera même ensuite dans le fil des siècles. Aujourd'hui, la cathédrale de Chartres, c'est Notre-Dame de Chartres. Comme toutes les cathédrales, d'ailleurs, de France, elles portent le nom de Notre-Dame. Et c'est d'ailleurs une traduction aussi de la dimension mythologique celtique qui a perduré au-delà des peuples eux-mêmes.
Oui. Alors, pour rebondir sur ce qu'on entend aujourd'hui de part et d'autre, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a une vision, je ne sais pas si elle est un peu naïve, un peu simpliste ou autre, mais de la beauté, on va dire, de la personnalité féminine, de la figure féminine. Je trouve que la femme, littérairement, est un personnage extraordinaire, d'une profondeur incroyable, du point de vue esthétique, comme du point de vue psychologique, comme du point de vue historique. Et c'est vrai que dans mon rapport aux divinités antiques, aux cultes antiques, j'ai toujours été plus fasciné personnellement par ces divinités féminines, et notamment les divinités de l'amour, les divinités érotiques au sens noble du terme. Et c'était ça que je voulais aussi faire retracer quelque part dans mon livre. Des personnalités comme, enfin des figures divines comme Aphrodite. Mais pas la Aphrodite vulgarisée qu'on apprend à l'école, cette Aphrodite très complexe, avec ses cultes, avec ses différentes sensibilités, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, finalement, imaginer que les Gaulois aient eu le même culte. Voilà. Ils l'ont sans doute eu, d'ailleurs, puisqu'il y a des divinités, bien sûr, de l'amour féminine, etc. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, je trouvais que la figure féminine est beaucoup plus profonde que la figure masculine. Après, il y a des dieux masculins, bien sûr, mais ces dieux masculins sont toujours en rapport à la guerre, évidemment, à la violence, au sacrifice, etc. etc. Voilà. Mmh. Et ça me permettait, par ailleurs, de faire un rapport, d'établir un parallèle avec mes autres personnages féminins qui évoluent autour de mon savant là, qui découvre la forêt des Carnutes, voilà, tout simplement.
C'est tout à fait passionnant. Alors, il faut dire que dans ce livre, vous venez d'exprimer un certain nombre de choses par rapport à vos héroïnes. Et c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour dans ces livres qui est assez singulière, qui traverse en fait les livres et dont je n'en dirai pas plus parce qu'il ne faudrait pas spoiler ce que contiennent les ouvrages, mais c'est assez fabuleux, c'est vrai. Et tout ce que vous venez de dire en fait est illustratif de ce que vous faites vivre dans ces ouvrages et ces personnages féminins sont tout à fait originaux. C'est vraiment quelque chose de typique qui d'ailleurs ajoute à la séduction dont je parlais tout à l'heure. Moi, ça m'a vraiment séduit. C'est remarquable aussi pour cette dimension-là, quoi.
Oui.
Mais bon, cela dit, les hommes aussi sont très séduisants parce qu'en fait, ce sont des personnages qui s'engagent, qui ne doutent pas de leurs sentiments, de leurs émotions, qui sont authentiques et...
Mais c'est vrai que le travail n'est pas le même, puisque les sources antiques, par définition, ne parlent pas ou très peu des personnages féminins. Donc on est beaucoup plus libre, finalement, par rapport à un personnage féminin. Et quand ils en parlent, par exemple, bon, le personnage de Cléopâtre, il n'apparaît pas dans mon livre, mais quand les auteurs romains parlent de la reine Cléopâtre, c'est entièrement des clichés, des stéréotypes sur cette égyptienne, etc., etc., que l'archéologie dément aujourd'hui. Donc on est libre. Avec des personnages masculins, à l'inverse, on est beaucoup moins libre. Il y a toujours ce lien à créer avec les sources, avec ce que nous en disent les historiens, etc. Bien sûr, il y a le personnage de César, mais même les chefs gaulois. On a suffisamment de portraits de chefs gaulois pour être un petit peu prisonnier, un petit peu pris comme ça par nos sources, et on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Un commerçant romain, il y a suffisamment de textes qui évoquent les commerçants romains pour qu'on ne puisse pas dire ce qu'on veut. Donc ce n'est pas la même approche, finalement, ce n'est pas la même liberté, et finalement, j'oserais presque dire, la poétique du livre s'exprime davantage à travers la femme, parce qu'on est plus libre, finalement. C'est plus lâche, quelque part, que par rapport aux personnages masculins. Ces personnages masculins, effectivement, se veulent haut en couleur. Alors là encore, j'ai tenté d'être exhaustif. Il y a le Gaulois qui tient farouchement à son indépendance, il y a le Gaulois qui, au contraire, est enclin à collaborer avec les Romains, bien sûr. Il y a le Gaulois qui apparaît comme sage, celui qui apparaît au contraire comme
irréductible.
Voilà, l'irréductible, le bagarreur, tout ce qu'on veut, bien sûr. Et là, on touche encore à quelque chose du roman historique. Il faut correspondre au type qu'attend le lecteur.
Ouais.
Le lecteur attend toutes ces figures-là, de la même manière que le druide. Le lecteur attend légitimement un druide, parce que, évidemment, pour lui, Gaulois égale druide. Bon, il serait bien étonné, sans doute, d'apprendre...
On en reparlera des druides, mais lors de la prochaine émission, parce que là, on n'aura pas le temps.
J'anticipe.
On n'aura pas le temps, en fait, d'évoquer cette dimension-là. C'est important qu'on le fasse, on le fera dès le début de la prochaine émission. On va faire une pause musicale pour introduire les livres de notre rubrique, les livres du mois. Et on se retrouve juste après cette courte pause. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel avec l'auteur Armand Cléry pour son livre « Le sang des Carnutes ». Nous en venons maintenant rapidement à notre rubrique mensuelle « Les livres du mois » car nous avons pris beaucoup de retard au cours de l'émission. Mais il faut dire qu'Armand est passionnant et qu'on se laisse piéger par le temps. Alors, le premier livre. « La psychanalyse est-elle contemporaine ?» Un livre d'Éric Bidault, de Martin Baquero Carrasco. Un livre chez Panta Édition. Un livre tout à fait intéressant de deux, de deux auteurs, l'un professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris 7 et l'autre docteur et psychanalyste, docteur en psychopathologie, psychanalyste et chercheur associé au centre de recherche psychanalyse, médecine et société à Paris 7. Donc un ouvrage assez éclectique et en même temps, je dirais, poétique sur la contemporanéité de la psychanalyse. Donc, ça s'adresse à un lectorat assez spectral, hein, comment dire autrement, large, hein, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de contenu trop théorique où ça nécessite pas de maîtriser la technique psychanalytique pour lire ce livre. Donc, la psychanalyse est-elle contemporaine chez Panta Éditions, écrit par Éric Bideau, Martin Baquero Carrasco. Un deuxième ouvrage, Les tueurs en série, fantasmes et scènes de crime. Tentative d'approche psychopathologique et psychanalytique de Samuel González Puel. Alors, un ouvrage publié chez L'Harmattan, un ouvrage tout à fait intéressant, surtout pour ceux qui s'intéressent à toutes les séries sur Netflix de tueurs en série, allant de Dexter Morgan, le flic tueur en série, jusqu'à la série Sinner, qui actuellement vit sa deuxième saison sur Netflix, pour être précis. Donc, écoutez, cet ouvrage, vraiment, moi, m'a fasciné. C'est très, très intéressant. On suit un peu les profils, les psychologies des tueurs en série, et on se fait une autre image aussi de ce qu'ils sont et de ce qu'ils les traversent. J'en redis le titre. Les tueurs en série, fantasmes et scènes de crime de Samuel González Puel, chez L'Harmattan, dans la collection Psychologique. Un troisième ouvrage, d'actualité, Le Burnout, une opportunité de transformation intérieure. Comme vous l'entendez, un livre très positif, écrit par Bénédicte Costedat-Lamarck, chez L'Harmattan, dans la collection Antidote. Alors, c'est un ouvrage très intéressant d'une femme donc, qui a eu des postes de responsabilité au plus haut niveau dans des grandes sociétés, et qui fait part elle-même de son expérience personnelle de burn-out. Donc, elle a été travaillée par cette question, elle en a souffert, et elle a cherché en fait des opportunités, elle a construit des opportunités pour essayer de faire ressurgir ses potentialités, ses ressources, et pour se sortir de cette situation. Et donc, elle en témoigne dans cet ouvrage où elle formule différentes pistes qui sont vraiment très intéressantes dans un ouvrage qui est très bien écrit, qui est très, très pédagogique, donc, dont je redis le titre, « Le burn-out, une opportunité de transformation intérieure » de Bénédicte Costedat-Lamarck, aux éditions L'Harmattan, dans la collection « Antidote ». Et enfin, un livre pour tous ceux qui aiment les itinéraires un peu bucoliques, un livre publié aux éditions Sutton, En balade, 20 randonnées pédestres en Normandie. Donc, des possibilités de déambulation dans des endroits qui sont pittoresques, parfois pas très loin de chez nous, Aurélien. Donc, ça commence à partir de Mortagne au Perche et on se promène en basse et haute Normandie, donc dans des lieux tout à fait intéressants avec un patrimoine et des paysages d'exception. Ce livre, donc, 20 randonnées pédestres en balade, Normandie, aux éditions Sutton. Nous avons fini avec la rubrique Les livres du mois. On fait une toute petite courte pause musicale avant de conclure avec Armand Cléry. Vous êtes sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Armand Cléry. Armand, nous arrivons au terme de cette émission. On a peu de temps pour conclure, mais de toute façon, nous nous revoyons le mois prochain pour continuer en fait sur vos livres tout à fait passionnants. Qu'est-ce que vous diriez au terme donc de cette première émission sur le tome 1 du Sang des Carnutes, L'or et le sacrifice ?
Bien, je dirais que ce tome 1 vaut le coup d'être lu pour découvrir la manière de vivre d'un Gaulois au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le tome qui correspond aux événements historiques du massacre d'Orléans, c'est plutôt pour s'immerger voilà, dans ce que pouvait être la Beauce, ce que pouvait être notre territoire il y a 2000 ans. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de recréer, une plongée comme ça dans le passé que j'ai essayé de rendre la plus vivante qui soit et la plus passionnante.
Alors, je vais prolonger votre conclusion en tant qu'ethnologue. Je dirais aux auditeurs que ce livre est un ascenseur qui vous conduit du 21e siècle, au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est incroyable, on est plongé dans l'univers des Gaulois, dans l'univers Carnut. On se retrouve dans un monde qu'on a pu fantasmer, qu'on a appris... dont on a appris beaucoup de fausseté à l'école primaire. Et là, tout d'un coup, eh bien, on est dans un univers incroyable. Et nous allons nous retrouver, Armand Cléry, lors du mois prochain, pour parler du deuxième tome. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à Simon Martin à la technique. À bientôt, à vous tous, chers auditeurs.